12h. Le journal de midi, César Yao.
Bonjour à tous, tout de suite le sommaire de ce mardi midi. À Daloa, le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Georges Oyen, a organisé avec les partenaires du système éducatif de la région la traditionnelle réunion de rentrée. Il a entre autres mis l'accent sur la question des cotisations exceptionnelles dans certains établissements et invité surtout les responsables de ces établissements privés à plus de responsabilités en vue de l'amélioration des résultats scolaires 2024-2025. Conférence continentale sur la justice climatique à Abidjan. Cet événement qui a réuni les acteurs du continent africain avait pour objectif de former les journalistes aux enjeux environnementaux et de réécrire le narratif climatique africain. Dans l'actualité internationale au Mali, l'ex-député Idrissa Sankaré, enlevé à Bamako, est relâché. Dans l'invité de la rédaction, Mata Touré recevra professeur Bamba Abdoulaye, le professeur en histoire des relations internationales. Ils parleront du forum sur la coopération sino-africaine en évoquant la déclaration et le plan d'action qui présentent des accords clés et une feuille de route pour la coopération sino-africaine au cours des trois prochaines années. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous, aux directions d'Aloa, où le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a organisé récemment, avec les partenaires du système éducatif de la région, la traditionnelle réunion de rentrée, occasion saisie par Georges Yin pour inviter les enseignants, les responsables des syndicats, les élèves et les associations de parents d'élèves, tout en tout mettre précisément en œuvre pour améliorer les résultats scolaires dans les établissements. Nous l'écoutons.
Nous avons fait le bilan de l'année écoulée. Au compte des points positifs, nous avons pu terminer l'année tranquillement. Les syndicalistes, les congés anticipés n'ont pas eu lieu à Daloa. Au point de vue difficulté, nous avons constaté encore quelques fraudes et tricheries. Un résultat en hausse, mais très insuffisant. Nous voulons améliorer cela l'année prochaine. Nous avons demandé aux établissements privés d'être responsables. C'est la tolérance zéro cette année. Il n'y aura pas de candidat libre officiel cette année dans la draine de Daloa. Nous allons les traquer, y compris les établissements clandestins. Nous n'en voulons plus. Et nous voulons stabiliser les listes. Les inscriptions traînent en longueur et après on a des ajouts, des retraits et puis on a des petits problèmes. L'Ivoirien nouveau que Madame le ministre appelle, c'est un enseignant intègre, un responsable, un enseignant qui fait correctement son travail, qui est assidu, ponctuel, un enseignant consciencieux de son rôle dans l'éducation nationale. C'est comme ça que nous pouvons relever le taux de réussite dans notre draine. Et également, nous avons demandé de mettre fin aux pratiques de cotisation exceptionnelles. Si un responsable se retrouve dans cette situation, il sera relevé de son poste.
Voilà à l'instant Georges Yin. Il est le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Daloa. Autre chose dans cette édition en prélude à la révision de la liste électorale qui démarre dans quelques semaines, les ONG de la ville de Bouaké s'engagent à s'impliquer résolument dans la campagne de sensibilisation pour la réussite de l'opération. On en parle avec Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Québec.
Ni neutre ni partisan, c'est le leitmotiv des ONG, organisations non gouvernementales de Bouaké, relativement au processus électoral. Bien plus, ces structures entendent contribuer à leur niveau à promouvoir la citoyenneté. Docteur Mousso Ambroise, président de la fondation qui porte son nom, par ailleurs lauréat national du prix d'excellence de la cohésion et la paix au titre de 2024.
Ces jeunes, qu'ils partent se faire enrôler, qu'ils soient sur la liste électorale, quand ils se résignent eux-mêmes de ne pas le faire, vraiment, c'est grave. C'est vraiment se planter un couteau dans leur cœur. Ils subissent même la politique. On dit tout n'est pas politique, mais la politique est dans tout. Donc, pour eux-mêmes leur vie, pour eux-mêmes leur futur, leur avenir, il faut qu'ils donnent leur avis à la gouvernance.
Même engagement du côté de la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie de Bouaké. Doumbia Soumaïla, son coordonnateur général.
Nous sommes en train de préparer un plaidoyer afin que ce nouveau majeur puisse aller s'inscrire sur la liste électorale.
Les partis politiques mettent eux aussi le pied à l'étrier. Kouna Koumoué René, délégué PDCI de Botro 2 dans la région de Gbeke.
Beaucoup n'ont pas de papiers du tout, je veux dire, ils n'ont pas d'extrait de naissance. Pour les moyens, nous sommes en train de se battre, pour les moyens pour pouvoir les aider, pour avoir le maximum de requérants, pour inscrire le nom sur la liste électorale.
Le PPAC et le RHDP, à travers leurs responsables locaux, affûtent eux aussi leurs armes dans le cadre de la révision de la liste électorale. Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la Paix.
Voilà, retour à Abidjan pour parler de la conférence nationale des directeurs de publication de Côte d'Ivoire qui fait face à des problèmes d'imprimerie. Eh bien, pour trouver une solution, elle sollicite l'appui du chef de l'État ivoirien, initiative à laquelle souscrit le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, JEPSI. Des explications avec son président Zoré Lassane.
Le problème que pose la CNDPCI existe bel et bien, mais nous reconnaissons qu'il y a quand même du travail qui est fait derrière parce que nous sommes en contact avec l'agence de soutien et de développement de la presse ASDM à travers un groupe de contact qu'on a mis en place où on retrouve les imprimeurs, les distributeurs et les éditeurs. Donc au sein de ce groupe de travail-là, il y a quand même quelques avancées et c'est ce qui a donné d'ailleurs le plan stratégique de soutien et de développement des médias récemment. Le lancement a été fait à la maison des entreprises. Donc voilà un peu ce qui nous a amené à nous prononcer à travers le communiqué sur la déclaration de la CNDPCI.
D'accord. Histoire de développer un peu, quelles sont les difficultés auxquelles la CNDPCI doit faire face?
Je crois que c'est la même chose qu'on répète tout le temps. Hein. C'est le problème que connaissent les entreprises de presse depuis un certain temps. On sait tous que nous sommes au creux de la vague avec le système de distribution qui n'est pas encore efficient. On a aussi le rebaissement de la vente de nos journaux qui ne se font pas de façon automatique parce que il pense aussi à ces difficultés, que nous comprenons d'ailleurs. Mais vous imaginez qu'une entreprise de presse qui vend ses journaux qui n'est pas payée à temps et tout ça, alors qu'il y a des charges qui sont là, est un peu affaibli devant ses employés, devant les impôts et tout ça. Voilà. Et puis ensuite, nous avons aussi un stock d'arriérés au niveau des impôts. Nous avons aussi des retards au niveau de la cotisation sociale. Bon, c'est tout un tas de problèmes qui sont là depuis et qui n'ont pas encore de solution jusqu'à présent.
Voilà, c'était Zoré Lassane, président du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Une conférence continentale sur la justice climatique s'est tenue récemment à Abidjan. Cet événement qui a réuni des acteurs venus de toute l'Afrique avait pour objectif principal de former les journalistes aux enjeux environnementaux et de réécrire le narratif climatique africain. Le thème central de cette conférence était renforcer les capacités des journalistes pour favoriser une transition climatique juste en Afrique. On en parle avec Christelle Yesso.
Cette conférence a porté principalement sur la justice climatique, un terme défini par Dr Alex Mayo-Nagbo, conseiller technique et représentant du ministre de l'Environnement.
La justice climatique, en réalité, devrait permettre de responsabiliser à la fois les personnes physiques, les personnes morales, y compris l'État, les entreprises, sur leur rôle face au fléau du changement climatique issu du fait de l'homme.
Pour le président de la Fédération africaine des journalistes, la FAGE, il était important de rétablir les responsabilités dans le phénomène de pollution mondiale. Omar Farouk Osman.
Ce sont les pays industrialisés qui font qu'il y a un dérèglement climatique, alors que c'est le continent africain qui en souffre le plus. Donc, nous sommes venus à Abidjan pour renforcer les capacités des différents journalistes, leur donner les outils nécessaires pour pouvoir apporter ce nouveau narratif-là pour que le monde entier puisse entendre l'Afrique.
L'État de Côte d'Ivoire a, à son niveau, pris des mesures de répression, le représentant du ministre.
Beaucoup d'entreprises polluent et aujourd'hui, il n'est plus question de laisser la pollution impunie. Et déjà, plusieurs entreprises ont été fermées.
Pour Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, le rôle des journalistes dans cette lutte est plus que primordial.
Nous sommes des lanceurs d'alerte. À chaque fois qu'il y a une pollution ailleurs, les journalistes font leur travail. Nous jouons notre rôle d'éveilleur de conscience. Maintenant, au niveau de l'UNJCI, notre rôle est d'accompagner tout cela.
Cette conférence s'étendra sur 2 journées de réflexion.
Climat et environnement toujours lors de la clôture de la 10e session de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. Les ministres africains ont formulé plusieurs recommandations clés pour aborder les défis liés au changement climatique. Jean-Mélène Bitti revient sur quelques points clés de ces décisions.
Ce
Ces recommandations visent à renforcer l'engagement des nations africaines dans la lutte contre les changements climatiques, tout en promouvant un développement durable tournant autour de 30 axes majeurs. Le ministre souligne l'importance de mettre en œuvre les résultats du bilan mondial adopté lors de la 28e session de la conférence des parties COP28 afin de relever les défis du développement durable en Afrique tout en visant une transition juste vers un développement à faible émission de carbone. Aussi, un appel a été lancé pour définir un nouvel objectif collectif ambitieux et axé sur les résultats lors de la 29e session de la COP. Cet objectif doit soutenir la transition des pays en développement et prendre en compte les défis économiques actuels. Les ministres préconisent qu'un montant minimum de 1300 milliards de dollars par an soit affecté au financement de l'action climatique avec une attention particulière sur les subventions et les conditions favorables pour l'adaptation. Ils ont aussi invité les pays développés à respecter leur engagement en matière de financement pour répondre aux besoins croissants d'adaptation dans les pays en développement. Les ministres africains de l'environnement dans la déclaration dite d'Abidjan s'opposent aux mesures commerciales unilatérales liées au climat comme les taxes carbone aux frontières qui pourraient restreindre le commerce international de manière injustifiable. Concernant justement le marché du carbone, l'Afrique considère comme une opportunité pour un développement durable et résilient. Elle appelle à des règles solides pour garantir l'intégrité environnementale.
Elle peut être transformée, consommée sous plusieurs formes, en jus, en huile et même en biocharbon. La noix de coco, selon les spécialistes, présente plusieurs bienfaits pour l'être humain et de véritables opportunités économiques. Toutefois, en Côte d'Ivoire, la culture de cocotier, qui était en plein essor dans les années 1980, traverse une crise depuis quelques années maintenant. Et bien, pour y faire face, chercheurs, coopératives, partenaires publics et privés, venus de différents pays réfléchissent du 9 au 11 septembre à Abidjan sur la relance de cette filière. En Côte d'Ivoire, on fait le point avec Justin Koulibaly.
Le sucre de coco, il est très bon parce qu'il permet de s'éliminer rapidement.
Vous avez les briquettes de charbon, là, particulièrement, c'est 15 ans.
Dans la zone d'exposition de ce forum, les entrepreneurs présentent différents produits faits à base de coco. C'est le cas de Natacha Douo qui nous parle de sa trouvaille, la valorisation des coques de coco en charbon.
Quand on va produire du charbon à partir de coques de coco, on ne va plus couper les arbres. Et la particularité du charbon de coco, c'est qu'il dure longtemps, contrairement au charbon de bois. Il a une forte durée de combustion, il ne pollue pas, il ne met pas de fumée, contrairement au charbon de bois.
De telles initiatives pourvoyeuses d'emplois peuvent malheureusement être freinées par la chute de la production de coco en Côte d'Ivoire. Une récession due à l'urbanisation et aux problèmes de gouvernance au sein de la filière. Abou Bamba, coordonnateur d'Abidjan Legacy Programme, qui initie ces ateliers de réflexion.
On a fait venir le premier producteur africain, notamment le Ghana, qui nous a dépassé en 10 ans. Et on a aussi l'Indonésie qui est représentée, et l'Alliance internationale du coco, afin de pouvoir nous inspirer de leur modèle de réussite, leur modèle de gouvernance, leur modèle d'organisation. Et puis sur de la recherche, même si vous devez savoir que ici en Côte d'Ivoire, nous avons la plus grande station, une des plus grandes stations de recherche au monde sur les questions de coco, la station Marc de l'Homme sur la route de Bassam. Toutes les semences souches se trouvent ici en Côte d'Ivoire, donc c'est une station mondiale. Donc à ce niveau-là, nous n'avons pas d'inquiétude à nous faire, mais on va collaborer effectivement avec les autres pays qui sont un peu plus en avance sur nous.
Ce forum est marqué par des panels, réflexions et partages d'expériences qui aideront pour le financement de la filière coco en Côte d'Ivoire.
Gestion éco-citoyenne du cadre de vie des populations des localités de la région du Tonkpi à présent. Une exigence en faveur de la lutte contre la pollution plastique. Eh bien, c'est l'invitation express du directeur régional de l'environnement et du développement durable du Tonkpi à l'occasion de sa rencontre tenue récemment avec les populations de l'ouest montagneux. Les échos avec Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkpi.
Entre les nombreuses sources de dégradation du milieu naturel, la pollution plastique a retenu l'attention du directeur régional de l'environnement et du développement durable du Tonkpi qui lève un point de voile sur la présence encore de ces sachets plastiques sur les différents marchés du district autonome des montagnes, pourtant interdite en Côte d'Ivoire. Clé Blé Sébastien.
C'est vrai que l'État a pris un décret en 2013, mais en 2014, il y a eu un autre décret qui a été pris, modifiant des articles 2 et 7 du décret de 2013. Et donc, les entreprises peuvent avoir de façon exceptionnelle la permission de produire ces plastiques.
Une situation qui n'est pas sans conséquences sur la santé humaine.
Il y a les risques de maladies respiratoires, des maladies même de reproduction. Parce que lorsque vous mettez la nourriture chaude dans un sachet, il y a un produit chimique du sachet qui entre dans la nourriture. Et lorsque vous consommez cette nourriture-là, vous pouvez avoir des problèmes de reproduction, des problèmes de fertilité, au niveau des femmes surtout.
Le directeur régional de l'environnement et du développement durable du Tonkpi, Clé-Blé Sébastien, fait donc cette invitation à l'intention des populations de la région du Tonkpi de faire moins peser cette menace sur la vie et la nature.
Aujourd'hui, les sachets sont utilisés pour fabriquer des pavés, même des briques. Il y a des écoles primaires qui sont construites en briques, briques faites à partir de sachets plastiques. On invite à un comportement éco-citoyen. Alors, ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est de ne pas utiliser des sachets, mais d'utiliser des sacs qu'ils peuvent réutiliser. Lorsque vous êtes dans un magasin ou dans une boutique, prenez un sac qu'on peut réutiliser. C'est ce qui est recommandé.
À noter que la lutte contre la pollution plastique reste tout de même un vaste chantier. Stéphane Adams, Man, Radio de la Paix.
Juste un mot de l'actualité internationale au Mali. L'ex-député Drissa Sankari a été relâché. Il avait été enlevé à Bamako le 14 août dernier. Cet ancien député de Bankass dans le centre du pays, également membre du bureau national de l'association Tabital Poulaku, était détenu en dehors de toute procédure légale par les services maliens de la sécurité d'État. Il a finalement pu rentrer chez lui ce mardi matin. Sport football, le dernier match de la deuxième journée des éliminatoires pour la CAN Maroc 2025 se joue aujourd'hui. Plusieurs matchs sont au programme, dont celui qui oppose le Tchad à la Côte d'Ivoire ce soir à partir de 19h en temps universel au Cameroun. À présent, l'invité de la rédaction, Mata Touré reçoit professeur Bamba Abdoulaye. Il est chargé des relations internationales. Il parle du forum de la coopération sino-africaine en évoquant la déclaration et le plan d'action qui présente des accords clés, une feuille de route pour la coopération sino-africaine au cours des trois prochaines années. Entretien.
Professeur Bamba Abdoulaye, bonjour.
Bonjour madame.
Ce 6 septembre 2024 s'est achevé à Pékin la 9e édition du forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC. Où à l'analyse, l'Afrique est présentée comme incontournable. On parle de sans la modernisation de la Chine et de l'Afrique, il n'y aura tout simplement pas de modernisation mondiale. Qu'en est-il réellement?
Vous savez que ce sommet se déroule dans un contexte international marqué par deux crises majeures, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et puis les tensions au Moyen-Orient. Et naturellement, quand il s'agit de conflit, vous avez donc les jeux de cartes, d'alliances, des partenariats qui se jouent. Et en pareille circonstance, l'Afrique apparaît où la Chine intéresse. Privilégié lui permet donc de rassurer ses partenaires, de les convaincre de la nécessité d'être toujours ensemble. Et c'est dans ce cadre que, lorsque le président chinois affirme de tels propos, il faut retenir que la modernisation à l'occidental a ses avantages et a aussi ses inconvénients. Et quand on prend les avantages, il y a que si la Chine et le continent africain ne suivent pas le rythme, il va forcément avoir donc un déséquilibre. Deux mondes, deux cartes différentes. Une carte où il y a un progrès total et puis une carte où il n'y a pas. Donc, si la Chine et le continent africain ne suivent pas cette modernisation, je pense que cela va mettre à mal l'équilibre même mondial, c'est ce qu'il veut dire. Mm-hmm. Cela montre aussi l'importance du continent africain et l'importance de la Chine comme puissance, nouvelle puissance mondiale.
Que pensez-vous de cet argument selon lequel les projets gigantesques ont été financés par les prêts chinois ont considérablement accru la dette de certains pays africains?
Sur cette question, j'ai toujours eu la position suivante. La crise de la dette, c'est simplement commencé par la relation Afrique-Chine. Et pour moi, les chefs d'État africains doivent faire preuve de beaucoup de responsabilité en s'endettant. Parce que s'endetter, il n'est pas faire bon usage de cette dette et puis après venir, excusez-moi l'expression, mais pleurnicher. Moi, c'est parfois un manque de responsabilité. Parce que vous vous endettez, il faut avoir déjà des secteurs dans lesquels vous allez investir cet argent, des secteurs productifs, pour ne pas être à mal après dans le remboursement de cette dette.
La Chine mise sur ses relations privilégiées avec les chefs d'État africains. D'aucuns évoquent des relations asymétriques très fortes dans les relations bilatérales avec des négociations spécifiques avec chaque pays. Est-ce que c'est une réalité selon vous?
Oui, vous savez, généralement on dit les relations Chine-Afrique. On donne l'impression qu'il y a une Afrique homogène, compacte, uniforme. Mm-hmm. Ce n'est pas la même réalité. Selon que vous soyez du Nord avec un niveau beaucoup plus avancé ou un pays au sud du Sahara ou un pays en crise politico-militaire, il y a des réalités qu'il faut forcément appréhender dans les négociations avec la Chine. Mais en tout état de cause, c'est quand il y a la stabilité, quand il y a l'alternance démocratique, que vous pouvez négocier avec des grandes puissances sur le long terme. Sinon, après, la dette devient un fardeau pour lui et pour vous, et vous retrouvez sur une situation inconfortable.
Le président chinois, dans son discours, a annoncé de nouvelles initiatives, a exposé la vision de Pékin pour l'avenir des relations sino-africaines. Il y a question d'ailleurs de 10 actions de partenariat. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un plus après ce forum pour le continent?
Oui, le plus va se retrouver à deux niveaux. Finalement, l'observation ou la critique majeure qu'on faisait, c'est d'abord que la Chine ne s'intéressait pas beaucoup aux questions de terrorisme, d'armement, de coopération militaire avec les États africains. Cela, je crois, a été pris en compte dans ce sommet. Ensuite, la question de l'emploi. Généralement, accuser la Chine de venir avec sa main-d'œuvre, travailler sur les chantiers africains. Et j'ai vu que dans les recommandations, dans les propos du président chinois, il est envisagé de créer beaucoup d'emplois pour les nationaux africains, si je peux m'exprimer ainsi, et donc de réduire le taux de chômage. C'est deux éléments essentiels qu'il faut prendre en compte. Mais il y a aussi les 10 actions qui sont prévues dans le partenariat Chine-Afrique. Et quand vous analysez ces 10 actions, et elles prennent en compte un peu tous les aspects qui rentrent en compte dans le développement d'un pays. C'est pour moi, c'est voilà les faits majeurs sur lesquels il faut capitaliser dans les années à venir avant le prochain sommet Chine-Afrique.
Professeur Bamba Abdoulaye, je vous remercie infiniment.
Merci beaucoup.
Voilà, Mata Touré recevait professeur Bamba Abdoulaye dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui referme les pages de ce journal, le rappel de l'essentiel. À Daloa, le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Georges Rien, a organisé avec les partenaires du système éducatif de la région la traditionnelle réunion de rentrée. Il a entre autres mis l'accent sur la question des cotisations exceptionnelles dans certains établissements invités sur toutes les populations, sinon les responsables des établissements privés à plus de responsabilités en vue de l'amélioration des résultats scolaires 2024-2025. Conférence continentale sur la justice climatique à Abidjan. Cet événement qui a réuni des acteurs du continent africain avait pour objectif de former les journalistes aux enjeux environnementaux et de réécrire le narratif climatique africain. Enfin, dans l'actualité internationale, au Mali, l'ex-député Idrissa Sankaré, enlevé à Bamako, est relâché. Eh bien, c'est la fin de cette édition sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous, 15h. Tout de suite, l'arrivée de presse avec Aoussi Potin.
Bonjour à toutes et à tous. Depuis hier lundi, c'est parti de nouveau pour la rentrée des classes pour près de 7 millions d'élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire en Côte d'Ivoire. Dans sa parution de ce jour, le quotidien gouvernemental Fraternité Matin revient largement sur cette rentrée scolaire.